France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Avez-vous entendu parler du Dry January, ce mois de janvier sans alcool inventé en Grande-Bretagne et promu par les associations et professionnels de la santé qui se préoccupent de prévention ? Bien que non relayé par les organismes de santé publique et parfois moqué, le défi de janvier, c'est son nom en français, est de plus en plus suivi. Il nous permet d'évoquer ici des faits établis. La consommation augmente chez les 18-30 ans alors qu'elle baisse pour tous les autres groupes d'âge. Et la première chose qui influence cette consommation d'alcool, des étudiants par exemple, c'est leur éducation. Dans une époque qui valorise l'engagement, la passion, la fête, dans une période difficile, marquée par une épidémie qui nous déprime, la modération peut s'avérer un vrai défi et bien parler d'un produit, l'alcool, présent à la table familiale ou à l'apéro Zoom, un casse-tête éducatif. Nous allons donc explorer ce soir plusieurs questions avec nos invités, celle des aspects culturels de la consommation d'alcool en France et de ses effets sur la consommation des jeunes, de la manière dont l'alcool est associé à la fête, à la liberté et même à l'émancipation. Et puis enfin, nous allons parler de prévention dans le cadre du parcours santé à l'école, mais aussi à travers l'extraordinaire exemple islandais, un pays qui a réussi à faire baisser la consommation d'alcool de sa jeunesse.
À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Et comme les bonnes habitudes sont valables pour toute une vie, on y prend d'abord l'habitude d'être propre. Là, l'enfant vit sans contrainte. Mais son éducation s'est intégrée à son alimentation. Il y prend l'habitude de manger correctement. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.
La sobriété est une bonne habitude pour les enfants. Évidemment, la question ne fait aucun doute, en tout cas beaucoup moins, qu'en 1956, date de cette archive INA, que vous connaissez peut-être parce que l'INA la ressort régulièrement, par exemple, à la rentrée scolaire. Je salue sans plus tarder les invités de cette émission. Bonjour Jean-Pierre Coutron.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien au XAPA, le trait d'union de l'association Opelia dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes porte-parole de la fédération Addiction. Vous avez dirigé avec Alain Morel un ouvrage extrêmement intéressant. Je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu certaines parties sur l'alcool. Addictologie, 47 notions, c'est publié chez Duno, c'est paru l'année dernière. Et puis vous avez publié un autre ouvrage également très intéressant chez Duno, Adolescents et cannabis, que faire ? Un mot sur le Dry January. Le Dry January, c'est un mois pour parler de l'alcool, mais comment ? Est-ce que c'est pour prévenir l'alcoolisme ?
Justement, c'est un mois pour parler de l'alcool. Alors, sans prévenir l'alcoolisme, parce qu'il y a des campagnes qui sont faites par Santé publique le reste du temps. Là, c'est pour dire à chacun, testez-vous par rapport à ses obligations que l'on a tous les jours, toutes les semaines, à tous les apéros, à tous les moments, de boire. Voilà, donc c'est l'idée de se donner un défi, le défi du mois de janvier, pour voir si on est capable de relever et prendre conscience de à quel point on est pris dans des habitudes et des incitations qui nous obligent à prendre de l'alcool beaucoup plus souvent qu'il ne le faudrait.
Et c'est bien un sujet auquel il faut réfléchir. On peut y réfléchir aussi en famille. On va reparler dans un tout petit instant de cette attitude parentale face à l'alcool, à laquelle on doit pouvoir penser. On va ce soir parler d'un autre ouvrage. Il m'a également énormément intéressé, Les jeunes face à l'alcool, publié chez RS l'année dernière. Alors nous aurons deux de ses auteurs, Christophe Moreau tout à l'heure, qui est sociologue, spécialiste de l'éducation et de la jeunesse, fondateur du jeu des vies jeunesse, développement intelligent. Et puis Marie Choquet, qui est au téléphone avec nous, qui est docteur en psychologie et épidémiologiste. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche. Bonsoir. Oui, j'ai l'habitude de dire bonjour même le soir. Vous êtes directrice de recherche honoraire à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Dans cet ouvrage, d'autres chercheurs très nombreux interviennent, à la fois sociologues, psychologues et bien d'autres spécialités. Dans cette émission, nous entendrons également une infirmière scolaire, Nathalie Martini, et une journaliste qui travaille au magazine Phosphore, qui s'adresse aux lycéens. Juliette Sauce, on va commencer avec vous, Marie Choquet, sur la famille. Justement, est-ce que la famille, c'est le lieu où tout se joue, où il faut commencer à parler d'alcool? J'ai lu hier une chronique, on va dire même, extrêmement intéressante, de Nicolas Santolaria du Monde, qui parle des parents qui ne contrôlent pas très bien une consommation assez régulière d'alcool devant leurs enfants et qui devraient en prendre conscience.
Oui. Les parents, c'est bien sûr le nerf de la guerre, souvent, pas uniquement d'ailleurs. Mais c'est vrai que en France, c'est vrai que la consommation d'alcool débute souvent en famille. Par contre, la première ivresse, on l'a en présence d'autres jeunes. Et c'est un point de vue assez important parce que finalement, la situation à risque, vraiment, ce qui va amener à une consommation excessive, c'est plus la première ivresse qui l'explique, si je puis dire, que la première consommation. Mais, évidemment, à travers les parents, à travers l'éducation, on va aborder un tas de sujets, un tas de façons d'être, et l'alcool devrait en faire partie. N'en fait pas toujours partie, d'ailleurs, cette éducation.
Et pour
même
vous,
si on montre un certain comportement.
Et pour vous, Jean-Pierre Coutron?
Oui, je crois que les parents, ils ont un double rôle. D'abord, ne pas participer à la banalisation du produit. Et effectivement, là, vous évoquiez des consommations régulières, habituelles, avec parfois des dimensions abusives que l'on ne contrôle pas. Donne ce sentiment qu'il est difficile ensuite de combattre, que le produit est finalement banal. Voilà. Et ensuite, ils vont quelques années plus tard, à l'adolescence ou à la préadolescence, devoir gérer dans une personnalité qui a grandi les prises de risque et avec elles les premières expériences type les ivresses. Voilà. Mais il y a vraiment ces deux choses. On pourrait en rajouter une troisième qui est que la formation de la personne, hein, parce que l'alcool dialogue avec la société, mais dialogue aussi avec l'individu, la personnalité de l'adolescent.
Et c'est là que peuvent se nouer ou non certains problèmes. On y reviendra à cette question de personnalité individuelle et de rapport au produit, parce que ça, c'est un sujet éducatif. Marie Choquet, qu'est-ce qu'on sait des chiffres français du rapport à l'alcool des jeunes, à la fois de ce qu'on appelle le binge drinking, l'alcoolisation massive, et puis une consommation plus à la fois régulière et moins excessive, mais qui tout de même a des effets sur la santé?
Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas parler des jeunes en général. Il faut vraiment regarder âge par âge, parce que, bien sûr, jeune, c'est un peu générique. Alors, si on prend maintenant, par exemple, les 17 ans, qui est enfin, la charnière, hein, parce qu'après, on est adulte, avant, on est enfant, on s'aperçoit que la majorité a déjà consommé de l'alcool durant sa vie. Mais seulement 8% ont une consommation régulière. C'est-à-dire, on va toujours prendre un critère, mais ce critère va être d'en prendre au moins 10 fois dans le mois. Donc, vous voyez, l'alcool est là, c'est vrai, mais au fond, elle est présente que pour une minorité de jeunes. Même si, bien sûr, à 17 ans, 8%, ça peut paraître, bien sûr, beaucoup.
Ah oui.
Alors, en ce qui concerne... Oui.
Non, j'acquiesçais,
oui,
en fait.
Oui, c'est parce que j'ai un écho très important.
Moi aussi, un petit peu, mais je crois que c'est bon pour les auditeurs. Continuons donc sur ce qu'on sait de cette consommation qui peut être assez régulière, mais évidemment, ce n'est pas majoritaire chez les ados.
Oui. Et par contre, en ce qui concerne l'ivresse, et je m'y intéresse particulièrement, parce que c'est un sujet très important, d'une part parce que le risque à l'adolescence de l'ivresse et surtout de l'ivresse répétée est primordial. Ça va jouer sur le cerveau, sur la façon d'être avec les autres, sur le risque qu'on prend, sur éventuellement l'accident ou les violences qu'on va subir. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Et l'ivresse, ça concerne quand même environ... ceux qui ont été ivres dans le mois ou tout au moins qui ont trop consommé dans le mois, ça concerne 44% des jeunes de 17 ans. Donc, vous voyez, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable du tout.
Ah non, 44%, ce n'est pas négligeable. Un chiffre impressionnant, donc, Jean-Pierre Coutron. Le style éducatif, et c'est développé dans l'ouvrage coordonné par Marie Choquet et Christophe Moreau, a son importance. Il serait établi que être indulgent, passer sous silence l'effet d'alcoolisation, ne pas y faire suffisamment attention, aurait des conséquences sur une consommation au présent et au futur chez les adolescents, et que il faudrait arriver à élaborer en tant que parent une stratégie face non seulement à l'alcool mais aussi adaptée à son propre enfant. C'est très difficile.
C'est très difficile, et en même temps, les parents que nous sommes ou les parents que nous avons été, on s'y met de façon très pragmatique. Hein. C'est-à-dire que on pourrait dire, reprendre la vieille phrase, il n'y a pas de métier plus dur que le métier d'éducateur. Voilà. Donc il ne faut pas se faire peur. Il faut se dire que ça peut avoir l'impression d'être très complexe. C'est en même temps très simple. Il s'agit d'annoncer les dangers d'un produit. Voilà. On n'a pas toujours communiqué sur les dangers de ce produit. Hein. Là, maintenant, on a toutes les informations pour communiquer sur les dangers de ce produit. Il s'agit d'indiquer que ce produit dangereux a un certain nombre de fonctions. Il y en a d'autres. Il y a des produits de ménage qui sont dangereux, qu'on range à certains endroits. Là, c'est un produit bizarre, puisqu'à la fois, il est dangereux, et on va voir des adultes qui vont chercher à en tirer des effets bénéfiques. Voilà. Alors c'est cette contradiction qu'il faut pouvoir expliquer si on est soi-même consommateur d'alcool, et il faut s'appuyer sur un autre principe général que l'enfant quand même connaît et prêt à accepter, qui est qu'il y a des chronologies dans la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas à certains âges et qu'on fera progressivement. Il y a des choses qu'on ne fait pas du premier coup. Il y a des choses sur lesquelles il faut que les adultes gardent un certain regard. Voilà. Et donc on va, après, avec ses spécificités de parents et puis celles de son enfant, essayer de fonctionner sur ces grands principes. Il y a du danger, il peut y avoir des raisons de consommer, c'est pour ça que certains adultes le font, mais il y a un certain nombre de précautions à avoir, et il y a un interdit qu'on doit continuer de donner, qui est en tout cas, on n'en fait pas l'expérience quand on est enfant. On aura autour de ça, et on a tous eu en tant que parents, un certain nombre de conflits éducatifs qui vont monter au fur et à mesure de l'âge, et parfois de l'attirance de l'enfant. Il faut savoir tenir nos positions éducatives.
En cela, et comme dans les autres domaines, mais c'est pas inutile de le rappeler. Plus sérieusement, Jean-Pierre Coutron, en préparant cette émission, je vous parlais de la culture du vin qui est valorisée en France, et c'est vrai que c'est très agréable pour beaucoup de Français de boire des grands crus ou des bons vins, qui ne sont pas forcément des grands crus. Et vous me disiez, il n'y a pas d'éducation à boire.
Oui, enfin, je
est-ce qu'on peut apprendre à son enfant à bien boire en tant que parent?
En tout cas, il y a à apprendre à notre enfant à ne pas être ivre, et à ne pas perdre le contrôle de lui-même. Et Marie Choquet faisait allusion au danger sur le cerveau. Le danger d'un adolescent, c'est que les centres du contrôle, on va pas passer du temps là-dessus, mais il faut quand même le rappeler, ne sont pas construits. Ils vont se construire progressivement. Donc, par rapport à un produit dont une caractéristique est de faire perdre le contrôle, c'est là-dessus qu'il faut se centrer. Une partie de l'ivresse, c'est la perte de contrôle et c'est ressentir des sensations fortes. Ensuite, il y a tout le travail autour de l'œnologie, d'apprécier à savourer, à goûter.
C'est un peu alors, ça ma question.
Les histoires de goût sont très subjectives. L'apprentissage de l'alcool et du goût d'un certain nombre de ces produits, je ne suis pas contre. Mais on en parlera plutôt chez les adultes. Soyons clairs. Chez les adolescents, chez les enfants, on leur fait boire de très mauvais alcools en les sucrant de façon majoritaire pour écraser tout phénomène de goût et pour les conduire le plus vite possible à l'ivresse et avec certains produits à la dépendance. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'il faut séparer les deux débats.
Mais est-ce que le vin et ses alcools très sucrés qui sont consommés par les adolescents et les jeunes entre eux, ces cocktails mélangés ou même pré-préparés et vendus dans les supermarchés. Est-ce que c'est la même chose, Jean-Pierre Coutron?
C'est le même alcool.
C'est toujours de l'alcool.
C'est le même alcool. Voilà, c'est le même alcool, c'est la même molécule d'éthanol, c'est les mêmes risques, c'est les mêmes dégâts et c'est l'habillage qui change. Voilà. Et l'habillage, effectivement, en termes de packaging, en termes de marketing, en termes de goût, hein, quand on surmet du goût frestagada, du sucre, cerise, ainsi de suite. Enfin, vous connaissez ces vins de mauvaise qualité, rebaptisés rosé pamplemousse avec des noms poétiques et tout, pour les faire boire, si possible glacés, comme ça on finit de pas avoir de problème au niveau gustatif. Ah, donc là. C'est quand même produit quelque part par des producteurs de vin, c'est importé par des importateurs, c'est mis souvent en premier accès dans les boutiques et dans les grands magasins, avec une surveillance assez faible dans certains cas par rapport à l'interdiction de vente aux mineurs. Voilà. Donc après, qu'il y ait des personnes qui animent un travail sur l'œnologie, je ne le conteste pas. Qu'il y ait, pour certains adultes, et j'en fais partie, le plaisir de distinguer un vin d'un autre et de faire un certain nombre de mariages avec certains produits, mais ce dont on parle par rapport à l'alcoolisation des jeunes et aux produits qu'on va proposer aux jeunes, mais vous ne trouvez jamais ça. Vous trouvez des vins de mauvaise qualité, vendus pas cher, avec des stratégies de vente presque à perte.
De vente à perte, parce que c'est aussi une stratégie de conquête d'un marché, si je vous suis bien.
Voilà, parce qu'on fait rentrer un public. On fait rentrer un public dans des consommations. Et on cherche pas à le faire rentrer au niveau du goût. Voilà. Alors je sais bien que ça va faire hurler des personnes qui sont des viticulteurs honnêtes et qui cherchent, eux, à faire un produit de qualité et qui ont parfois, d'ailleurs, du mal à le vendre. Mais là, ce soir, vous nous interrogez sur un marché. Vous nous interrogez sur ce qui se passe au niveau des populations. Hein. Et donc, il faut rendre hommage à un certain nombre de personnes. Il faut avoir un discours à peu près respectueux de chacun. Il est vrai qu'il y a des qualités gustatives dans certains vins. Ce serait faux de le nier. Mais il est vrai aussi qu'il y a des effets d'ivresse dans d'autres boissons. Ce serait tout aussi faux de le nier. Et quand on regarde ce qui se joue avec un certain nombre de jeunes, on peut le regretter. C'est le phénomène ivresse qui l'emporte.
C'est bien l'ivresse qui est recherchée par des adolescents ou des étudiants ou des jeunes qui consomment entre eux. Et c'est peut-être ça qui justifie aussi qu'il y ait de la prévention menée dans les écoles. Alors j'ai parlé au téléphone ce matin avec Isabelle Martini, elle est infirmière scolaire en lycée et elle évoque avec nous le rôle donc de l'école où dans le cadre du parcours santé, on peut faire de la prévention et parler de la consommation d'alcool et de psychotropes.
Il faut interpeller l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit. On peut tout à la fois travailler avec un officier de police par rapport à la sécurité routière, mais aussi avec un médecin qui va venir nous parler de la baisse de vigilance et puis aussi de la psychologie, c'est-à-dire qu'à quel moment un mal-être peut générer un comportement, une prise de produit.
Est-ce que les adolescents ont envie de savoir des choses sur les addictions, en particulier sur l'alcool dont nous parlons aujourd'hui ?
La réceptivité, c'est toujours difficile. Bien sûr, on fait des questionnaires qualitatifs. Est-ce que la séance vous a plu ? Est-ce que vous avez appris des choses, etc. Mais il ne faut jamais minorer l'idée qu'un jeune, même s'il ne participe pas, il est présent et il écoute. Qui prend ce qui l'intéresse, même si on a ce sentiment parfois de qu'il n'écoute pas, il parle parfois également entre eux, à bas bruit, à demi-mot, mais de choses qui les concernent. On laisse nos dépliants de prévention, on a nos adresses qui sont placardées, nos posters, des consommations jeunes consommateurs qui sont bien en vue sur les murs de nos bureaux. Mais on ne peut pas, comme ça, factuellement, après une séance, vous dire « Ah ça, là, celle-ci, c'était génial, 100% des élèves qui étaient là ne consommeront pas. » Non.
Est-ce que quand on fait de la prévention en parlant de l'alcool, on fait aussi de la prévention, par exemple, sur d'autres produits comme le cannabis, dont on sait qu'il est particulièrement consommé par les jeunes en France ?
Alors, indirectement, oui. Même si il se décline pas de la même façon, ce produit. La prévention de l'alcool a cela de particulier, c'est un produit qui est très bien repéré, il se vend à la supérette du coin, il est présent dans les soirées, même les soirées que les familles organisent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prévention dans son ensemble concernant les produits psychoactifs, donc où se trouve l'alcool, les notes, le cannabis, mais encore une autre que l'on qualifiait de drogue plus dure, rentre dans les apprentissages. C'est-à-dire que maintenant, dans un établissement, tout le monde est concerné par la prévention. Et donc, est en droit ou dans la possibilité d'étudier par la biologie, par le sport également, comment ça diminue les performances. Et aussi, on peut réfléchir et faire travailler les jeunes sur les compétences psychosociales, qui elles aussi sont à travailler même dans la structure scolaire. Alors, c'est défini par l'OMS, elles sont en nombre de 10, et entre autres, elles permettent justement de réfléchir à cette manière d'apprendre à choisir, de se positionner, de gérer son stress, ses émotions. Et bien évidemment, quand vous travaillez plus largement le comportement, la posture face à une décision à prendre, soit par rapport à un produit ou à un autre, forcément, ça ouvre sur les autres consommations.
Il faudrait, en tout cas c'est ce que dit Isabelle Martini, travailler ses compétences psychosocial et réfléchir à ce qu'un produit provoque comme effet, réfléchir dès l'adolescence à ce que c'est que l'addiction. Marie Choquet, qu'en pensez-vous ?
Mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Je crois qu'on a beaucoup changé en matière de prévention. Parce qu'au départ, on montrait les méfaits de l'alcool, peut le rendre attirant, hein. Donc, on sait bien que c'est assez ambigu à cet âge-là. Et travailler sur les compétences psychosociales, c'est vraiment travailler sur les choix, sur le bien-être. Et toutes les études ont montré que c'est en abordant l'alcool de ce point de vue-là qu'on diminue sa consommation, parce que les gens prennent conscience, parce que ils s'aperçoivent que c'est pas nécessaire, qu'ils en discutent avec d'autres, et qu'on s'aperçoit du coup que ben peut-être qu'on peut faire une fête sans alcool, peut-être qu'on peut s'amuser sans alcool, peut-être qu'on peut prendre du plaisir ailleurs, etc. Donc je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est de travailler sur les compétences psychosociales.
Jean-Pierre Coutron, si on boit de l'alcool, parfois, c'est pour s'amuser, mais aussi ne pas réfléchir, ne pas trop penser, trouver un peu de légèreté. Alors, opposé à cette consommation, la réflexion, le fait de s'arrêter, de se poser, c'est quand même une démarche qui est pas si évidente pour des gens qui cherchent justement à fuir cette introspection.
C'est pour ça qu'il faut arriver à tenir à la fois, effectivement, des propos très clairs sur les dangers de l'alcool, fermer une porte et ouvrir des alternatives, c'est-à-dire toute l'éducation sur les compétences psychosociales et puis ce qu'évoquait notre collègue infirmière.
Donc
la façon d'aller au-devant de jeunes avec des consultations jeunes consommateurs, avec des lieux où les adolescents peuvent parler un peu de ce qui a motivé une partie de la rencontre. Marie Choquet disait en ouverture, il n'y a pas un adolescent, il y a des adolescents. Hein. Donc effectivement, il faut accepter d'avoir des dispositifs un peu différents, mais vous avez raison, il faut se rappeler que c'est pas l'alcool qui vient à nous, même si le rôle du marketing est terrible pour imposer presque l'alcool à nous, mais il y a un dernier moment, c'est la personne qui choisit de le prendre, et cet adolescent, faut lui permettre d'avoir des choix alternatifs, d'avoir des stratégies alternatives, d'avoir, entre guillemets, moins besoin de cette fonction euphorisante, hédonisante qu'apporte le produit. C'est une partie de la bataille, se joue là-dessus.
Oui, j'ai un peu cherché
à des compétences psychosociales.
Voilà, à vous faire préciser ce que c'était, c'est justement ça, une compétence psychosociale, parce que c'est quand même un peu du jargon. C'est
savoir
se comporter, y réfléchir.
C'est une façon de mieux gérer son stress, c'est une façon de mieux se positionner dans un conflit, c'est une façon d'avoir une plus grande confiance en soi, c'est-à-dire c'est ces façons, vous appelez être et savoir, c'est ces façons d'être dans les interactions humaines. Alors au moment de l'adolescence, elle change, hein, parce que la personnalité change, les enjeux changent, la sexualité arrive, donc c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que si on a été accompagné et bien soutenu, et si on est accompagné et bien soutenu sur ces mécanismes qui nous permettent de nous débrouiller avec ça, ça se passe mieux. Voilà, hein, ça se passe mieux. Et parfois, il faut accepter d'être un peu étayé, que la famille soit un peu étayée. Mais les compétences psychosociales, c'est pas des monstres, c'est des choses toutes simples de la vie quotidienne. Résister au groupe, mieux gérer un stress, faire face à ses émotions, s'affirmer un peu plus. Voilà, ce sont des choses toutes simples. Je ne sais pas si j'ai encore 30 secondes, mais par exemple, on dit, c'est facile de dire non. C'est pas facile de dire non. Voilà, parce que quand vous dites non à quelqu'un qui vous propose un verre, l'autre, il a l'impression que vous refusez un cadeau. C'est un truc tout bête, hein. Il cherche pas. Et puis, si vous n'avez pas un peu préparer ça, entraîner, comment vous allez dire non, quelle excuse vous pouvez avoir. Parfois, il faut leur dire, mais tu peux même t'inventer une excuse. Tu as le droit de mentir, tu vas dire que tu as très mal au crâne. Voilà, il faut pas toujours leur demander d'être héroïque. Il faut leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire, de ne pas boire ce jour-là, en développant une stratégie que parfois ils ont un peu anticipée, un peu préparée, pour ne pas être pris par surprise dans certaines soirées. Sinon, ils seront pris parce que ils n'ont pas su quoi faire, ils vont pas perdre la face, donc ils vont dire oui. Voilà. Voyez, donc c'est l'entraînement des compétences psychosociales, c'est à la fois un travail de fond, et puis parfois c'est leur permettre de dire demain tu vas sortir, je serai pas là, c'était sorti tout seul, réfléchissons ensemble, comment on pourrait faire, ainsi de suite. And they all lived happily ever after. And they all lived happily. And they all lived. And they all.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret. Kicking it all for our song. I'm doing it all for love. Hey, 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 hey. Food in the kitchen, vomit, vomit.
for my homegrown sisters, brothers. Do it for the clan. Yeah. So tell them that it's hey! Just for your love.
Labyrinth All For Us, c'est une musique de la BO de Euphoria. Elle est interprétée par Zendaya dans cette série, cette chanson. Zendaya qui est l'héroïne de cette fiction qui parle d'adolescents en proie aux addictions. Très populaire, hein, Euphoria. Un peu angoissante, hein, vraiment. Alors, je me demandais d'ailleurs si la manière dont l'addiction a été abordée dans la fiction, en général, comptait et influençait les consommations des adolescents et des jeunes adultes. Et ça, c'est la question que je vous pose. Christophe Moreau, vous venez de nous rejoindre et vous avez co-coordonné avec Marie Choquet cet ouvrage « Les jeunes face à l'alcool » publié chez RS en 2019.
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Mais je pense que la question des addictions, le terme même de l'addiction, n'est pas quelque chose de très clair pour les jeunes et ils s'identifient pas à l'addiction ou à la personne addict, à la personne malade en fait. Donc je pense qu'il faut bien éclairer les risques dont nous parlons quand nous parlons d'alcool. Il ne s'agit pas de diaboliser à 100% le produit alcool, puisqu'il est très présent dans la société. Mais pour ma part, je crois qu'il est important de dissocier les risques pris au cours des soirées par environ 30 à 40% de nos adolescents et jeunes adultes, et puis des risques à long terme de maladies alcooliques qui concernent entre 5 et 8% des jeunes. Donc effectivement, l'addiction... ça va concerner peut-être entre 5 et 8% des jeunes d'aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour ma part, je crois que la question des risques pris en cours de soirée concerne par exemple les accidents de la route, concerne les violences, concerne la sexualité subie avec violence en soirée. Et ça, ça me paraît être des sujets qui sont importants à aborder avec tous les jeunes qui sortent et qui font la fête, alors que le terme même d'alcoolisme ou d'addiction ne leur parle pas du tout.
Et peut masquer des problèmes finalement plus banals. Alors on parle de fête, puisque la consommation des adolescents et des jeunes est festive. Cette consommation d'ailleurs est parfaitement décrite dans un ouvrage que j'ai lu cet après-midi. C'est celui d'Erwan Gramand, Détour par l'enfer. Il raconte son parcours d'alcoolisme, le comportement de ses parents qui refusent de voir qu'il abuse de l'alcool à de nombreuses reprises. Et puis, cette entrée dans la vie universitaire où il court après les open bars. Il écrit « Nous n'avions que ce mot à la bouche. Quand et où aurait lieu la prochaine soirée étudiante organisée par un BDE, BDE pour Bureau des élèves, dans laquelle l'entrée nous donnerait droit à de l'alcool à volonté. École de commerce, faculté de médecine, toutes les occasions étaient bonnes pour infiltrer ces soirées et boire jusqu'à devenir effroyablement sous. » Et d'ailleurs, ces soirées, c'est aussi un petit peu un marronnier de la presse. Elles continuent. Alors, est-ce que déjà, ces soirées, c'est vraiment un problème pour la santé de tous ceux qui participent? Est-ce que c'est signe d'un comportement qui va continuer plus tard? Marie Choquet.
Alors, d'abord, à ces soirées, tout le monde ne boit pas de la même façon. Je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que les attitudes et comportements sont très différents des uns des autres. Alors, c'est vrai que c'est l'occasion, hein, bien sûr, de boire, mais tous les jeunes qui vont à ces soirées ne boivent pas jusqu'à l'ivresse. Et on voit bien, dans le livre, un des auteurs, je sais pas si c'est Christophe ou quelqu'un d'autre, excusez-moi, mais a bien montré ces différences d'attitude des jeunes lors des soirées et le risque que courent, bien sûr, ceux qui ont des difficultés personnelles aussi, ou qui arrivent pour des raisons parfois purement génétiques d'ailleurs, à ne pas résister à l'alcool et qui vont boire en quantité importante. Donc, je crois qu'il faut toujours être mesuré, disons, hein, et regarder les choses objectivement.
Raison génétique aussi, parce qu'on a des prédispositions, sans tomber dans l'atavisme décrit dans les romans du 19e siècle, on a des prédispositions. Bien sûr. Un autre point est d'aborder dans cet ouvrage, les jeunes face à l'alcool, c'est ce qui est appelé la festivalisation, la société. C'est-à-dire qu'il y a ces fêtes de la jeunesse, mais en fait... la vie serait censée être une fête. Alors évidemment, en ce moment, c'est très étrange de parler de ça, puisqu'avec le Covid, tout est à l'arrêt. Mais en fait, cette société idéale, dont on attend d'ailleurs le retour, c'est une société où on fait très souvent la fête, des fêtes avec les enfants, des fêtes entre jeunes, des fêtes dans des parcs, au bar, à la maison, où on prend l'apéro et où on boit. Jean-Pierre Coutron.
Oui, alors ça rejoint ce que disait Christophe Moreau. Il faut distinguer la maladie alcoolique et l'addiction de ces consommations pour s'amuser. La culture hédoniste. Hein. Et effectivement, l'alcool a été positionné pour être ce produit-là. Après, vous imaginez, encore aujourd'hui, si on commence à dire « faut pas faire la fête », c'est insupportable.
Bien sûr.
Il ne faut pas mélanger le combat contre l'alcool, contre l'alcoolisme et contre une certaine automatisation de la consommation d'alcool avec une espèce de société où on pourrait pas s'amuser, où on pourrait pas faire la fête, où on pourrait pas être dans cette recherche de sensations qui fait quand même la qualité de ces moments, dans ces moments d'exception qui fait quand même la qualité de ces moments. Donc voilà, là encore, hein, il faut à chaque fois essayer de faire preuve d'intelligence et de permettre à la personne de comprendre qu'est-ce qu'elle va y chercher. Vous évoquiez le livre d'Erwan Grandmont, voilà, qui décrit comment petit à petit on peut être piégé parce que faire la fête, ça ne peut vouloir dire que être dans une extrême intensité. C'est là qu'il y a une espèce de piège qui petit à petit peut se refermer sur une partie de ces jeunes. Mais bien sûr, il n'est pas question de condamner l'envie de se retrouver, l'envie de faire la fête, l'envie de se retrouver sans adulte, l'envie d'expérimenter un certain nombre de sensations.
Mais la recherche de sensations et leur expérimentation, elle est totalement associée à la boisson et au fait de boire dans la majorité de la société. Si on boit quand on fait la fête, c'est bien pour atteindre un état qui est associé et qui nous permet de faire la fête.
C'est le piège de certains BDE.
Bureau des étudiants.
La soirée est patronnée par l'alcool.
Avec cette culture de la fête, il y a aussi une question de l'émancipation. Christophe Moreau, plusieurs ouvrages qui viennent de paraître abordent la question de l'alcoolisme au féminin et posent, il me semble, de bonnes questions. Donc elles sont soulevées à la fois par Stéphanie Braqueux et Claire Touzard, qui sortent deux récits sur la question de leur alcoolisme. Ces questions bien raconté par Zineb Drieff dans son article du Monde, ce sont celles de l'indépendance et même de l'empowerment associé à l'alcool pour des filles qui veulent boire comme des garçons ou en tout cas se libérer d'une certaine image de la fille qui serait timorée, mesurée, tout en réalisant que c'est aussi un piège.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans l'ouvrage sur les jeunes face à l'alcool, on a des chiffres sur les 18-30 ans qui montrent que les populations aujourd'hui qui sont parmi les plus vulnérables, ce sont notamment les jeunes femmes qui sont diplômées et en activité professionnelle. Donc sans doute que la question de l'émancipation, de la pression sociale, de l'accès au travail, l'accès à une situation familiale équilibrée, tout cela génère un stress chez une partie donc des jeunes femmes, et certaines personnes vont utiliser l'alcool pour gérer leur stress. Donc moi j'insiste beaucoup dans les discussions sur la question de la fête et les questions d'éducation sur l'inégalité entre les uns et les autres. Nous ne sommes pas tous à égalité face au produit alcool. Donc on a un produit qui est biologiquement pathogène, on a un environnement festif avec de l'incitation à faire la fête, un business de l'alcool qui est prégnant, du marketing de l'alcool, comme ça a été dit par Jean-Pierre Coutron, qui a un effet sur les consommations. Mais l'enjeu, c'est celui de la fragilité individuelle. On sait que le déterminant génétique est un des premiers facteurs, hein, pour notamment développer la maladie alcoolique. Mais cela dit, on sait aussi que l'environnement de vie, les relations familiales pendant l'enfance, les relations d'amour qu'on va avoir, nos compétences psychosociales dont on parlait tout à l'heure, ça va être déterminant aussi pour développer ou pas cette fragilité qu'on peut avoir en nous de façon génétique. Donc il est important d'accompagner les personnes sur justement la capacité à mettre des mots sur leurs émotions, se sentir soutenu par les parents, se sentir aimé, et se sentir aussi encadré, supervisé par la famille. Hein, donc les travaux sur la parentalité montrent que pour protéger les ados et les jeunes, il faudrait dans l'idéal que les parents puissent à la fois avoir des relations de sollicitude, d'amour, de soutien avec leur enfant, et en même temps des relations d'encadrement, de supervision, d'exigence avec leur enfant. Et on sait que les jeunes femmes et les jeunes filles sont plus sensibles à l'autorité, à la supervision et à l'exigence des parents, quand les jeunes garçons, eux, sont plus sensibles à la question de la sollicitude et de la relation, disons, affective. Hein, donc tout ça, ce sont des composantes qui vont venir plus ou moins renforcer les personnes, ces personnes ayant elles-mêmes des fragilités différentes d'une personne à l'autre par rapport aux produits alcool, mais aussi au tabac, au cannabis et aux autres produits. Donc il n'est pas question de dire que l'environnement est interdit et qu'il ne faut pas aller dans les fêtes et tout parce que ça fait partie de la normalité. Mais par contre, on doit s'interroger sur comment on renforce les personnes et notamment les plus fragiles d'un point de vue affectif, gestion du stress, dépressivité, etc.
Mais ce qui nous indique que la présence des parents, et ça ressort dans plusieurs articles de l'ouvrage, auprès des adolescents, on sait combien c'est difficile, est extrêmement importante. Alors vous parliez, et on a parlé plusieurs fois, du marketing de l'alcool. La journaliste Juliette Sauce, qui travaille à Phosphore, s'est penchée sur la question dans le dernier numéro de Phosphore. L'article est passionnant, vraiment, on apprend plein de choses. Et avec Juliette Sauce, nous avons commencé par parler d'une impressionnante étude américaine, bon, avant d'aborder la question des stratégies des alcooliers.
Elle date de 2018 et en fait, elle confirme qu'un groupe exposé à des commentaires positifs publiés sous des publicités d'alcool, donc des posts Facebook par exemple, a 3,5 fois plus envie de boire qu'un groupe exposé à des avis négatifs. Ça veut dire que concrètement, la publicité d'alcool sur les réseaux, elle a des conséquences réelles en fait, sur la consommation et la santé des jeunes. Ils peuvent faire de la pub pour leurs boissons alcoolisées et du coup cibler les jeunes en faisant par exemple des posts Instagram. Il y a aussi des pop-up vidéos sur YouTube où en fait c'est des publicités qui apparaissent entre deux vidéos par exemple. Il y a aussi des articles qui sont sponsorisés et qui se glissent et se cachent dans nos fils d'actu, par exemple sur Facebook. Donc, au premier regard, on pense que c'est un article d'un média. Et en fait, quand on clique dessus, on se rend compte que c'est de la publicité cachée. Donc ça, c'est assez fréquent, mais il y a aussi des défis TikTok. Alors, ça, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas d'où viennent, en fait, ces défis, mais à chaque fois, ça met en scène des boissons alcoolisées et les internautes doivent faire des défis avec... Donc, ça peut être, par exemple, sabrer une bouteille de bière ou l'ouvrir en la faisant résonner avec une fourchette.
TikTok, donc un réseau social très prisé des adolescents et des jeunes, et encore plus étonnant, Juliette Sauce, le filtre Snapchat.
Alors, ça, c'est une des stratégies les plus remarquables que j'ai pu observer. Il y a des filtres Snapchat. Et alors là, par exemple, dans ces filtres, le logo de la marque et son nom disparaît complètement.
Ça veut dire qu'on va prendre une photo de soi et que le visage va être modifié d'une manière amusante.
Exactement. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un filtre Snapchat qui est en fait une sorte de déguisement d'ananas. Quand on passe son visage derrière son écran, en fait, il y a un déguisement ananas qui apparaît. Et à côté de notre visage, il y a des bouteilles d'alcool qui apparaissent aussi.
Toutes ces stratégies sont à la limite de la légalité parce que normalement, la publicité pour l'alcool, c'est très encadré.
Il y en a qui respectent la loi, il y en a d'autres qui la respectent pas du tout. En fait, la loi E20, elle est assez floue puisque depuis 2009, la publicité d'alcool est autorisée sur Internet. Mais Internet, c'est large et du coup, ça concerne aussi les réseaux sociaux. Sauf que la loi E20, elle dit que les alcooliers ne peuvent pas faire de la pub et cibler les jeunes. C'est un peu surprenant que du coup, ces marques d'alcool soient présentes sur les réseaux sociaux puisqu'on sait que 95% des 12-17 ans vont chaque jour sur Instagram ou Snapchat ou TikTok. Du coup, on peut se poser la question de cette frontière, en fait, de ce jeu permanent avec la loi. Et ça prouve que la loi, aujourd'hui, elle est trop floue et qu'elle n'est plus du tout adaptée aux pratiques des jeunes.
Cette question, c'est important de l'aborder dans un magazine tel que Phosphore qui s'adresse aux lycéens.
En fait, ça leur permet non seulement de prendre conscience de ce qu'ils voient, en fait, parce que ces publicités, ils les voient quasiment tous les jours sur leur réseau. Et en fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'ils sont très méfiants à l'égard des publicités dites classiques, donc par exemple les spots télé, les panneaux d'affichage, mais qu'ils ont plus de mal en fait à identifier ces publicités cachées. Donc les publicités cachées pour les marques d'alcool, ça peut être par exemple des posts d'influenceurs sur Instagram qui prônent et font la pub de boissons alcoolisées. Et en fait, face à ces publicités-là, ils sont moins regardants, moins méfiants. Ils ont tendance à plus les partager et donc à plus les diffuser. Et le problème, c'est que ça crée en fait plus d'audience pour ces publicités-là, alors qu'elles sont interdites par la loi. Et le second problème, c'est qu'en fait, ça banalise la consommation d'alcool. Et chez les jeunes, l'alcool, c'est dangereux. L'alcool en France, c'est la troisième cause de mortalité. Mais je trouve qu'on répète pas assez que pour les jeunes, en fait, c'est l'alcool, ça cause des accidents et c'est aussi responsable de bon nombre d'agressions sexuelles. Et ça, c'est pas clairement dit, en fait, dans les chiffres. Et du coup, parler de ce problème-là à nos lecteurs, ça leur permet de prendre conscience de ce problème-là et de se montrer plus méfiant et d'allumer leur petite alarme dans leur tête dès qu'ils voient ces postes-là.
Ce problème et cette alarme, on en a parlé dans cette émission, ce numéro d'Être et Savoir consacré à l'éducation face à l'alcool. Comment en parler et qu'en dire et comment prévenir une surconsommation, qu'elle soit festive ou régulière. Et en la matière, il y a un exemple extrêmement parlant, réussi, c'est l'Islande. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage diffusé sur la BBC en 2017.
Nous nous entraînons environ 5 ou 6 fois par semaine, juste après l'école, généralement vers 17h30. Nous aimons aller nager. Nous essayons de faire cela tous les jours. Je vais souvent avec mon frère jouer au volleyball. Les filles jouent également au football et l'équitation est très populaire.
Pour mettre en place un tel programme, vous devez d'abord vous appuyer sur un travail de recherche. Ensuite, vous devez le financer et amener la population à dialoguer entre parents, avec les écoles, auprès des associations de quartier et à tous ceux qui doivent être impliqués. Gardons à l'esprit que les enfants ne veulent pas consommer de drogue. Ils veulent pouvoir mener une vie heureuse et saine.
Merci à Félix Levaché qui a doublé à la fois un jeune Islandais qui joue au football, le maire de Reykjavik, et une chercheuse islandaise. Cet exemple, il est connu des spécialistes de la prévention. Jean-Pierre Coutron, est-ce que c'est un exemple à suivre? Il représente beaucoup de dépenses publiques concernant à la fois la pratique du sport, des loisirs pour les jeunes, qui ont droit à une enveloppe de $500, c'est en dollars, par an. C'est en dollars que ça a été calculé. Jean-Pierre Coutron, sur le modèle islandais.
Alors, le modèle, il est connu. Si on avait le temps, je vous raconterais une anecdote quand j'ai essayé de le présenter à la Direction Générale de la Santé et à un des ministres de la Santé que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais président de la Fédération Addiction. C'était à l'époque le modèle de départ, il était porté par le professeur américain qui l'avait mis au point, Milkman. Il est basé sur une idée assez simple, hein, qui est que puisqu'on va demander au produit un certain nombre d'effets, de sensations, de compétences psychosociales, ainsi de suite, autant essayer de les fabriquer directement, sans passer par le produit. Voilà, pour faire très très simple. Et la deuxième chose, il reprend des choses que disait Christophe Moreau et qui ont été dites par un certain nombre de chercheurs sur le rôle de la famille et de l'accompagnement. Voilà, donc il s'agissait moins d'interdire que de développer tout ce qui pouvait servir d'alternative. Alors du coup, c'est vrai que c'est un coût. Après, le calcul du coût, on pourrait appeler les économistes et voir tout ce que ça fait économiser en dépenses de santé, tout ce que ça fait économiser en dépenses de police, de justice, toutes les suites d'accidents, d'abus sexuels qu'évoquait par exemple votre collègue. On sait que généralement l'État y serait gagnant, mais le problème, c'est que entre une économie et une dépense pas faite, vous connaissez le système, finalement, on préfère laisser partir. La deuxième chose étant que, en plus, en France, qu'on n'a même pas été capable de défendre la loi Evin, qui avait une fonction de protection, on avait peu de chances d'impliquer ces programmes. Mais c'est vraiment dommage. C'est sûr que l'Islande, c'est 300 ou 400 000 habitants, enfin, je sais pas, c'est pas 60 millions. C'est sûr que c'est une île, c'est pas un bout de continent. Mais il y avait, à l'époque, quand on l'a présenté, il y avait des choses à tenir, et on a pris un retard d'une vingtaine d'années sur le développement des programmes de prévention éducatif qu'on aura du mal à rattraper et qu'on paye très cher aujourd'hui.
Christophe Moreau.
Parce que ce qui donne des résultats aujourd'hui, c'est ce que l'Islande a commencé dans les années 2000.
Donc une politique de long terme, on le comprend. Christophe Moreau, ce sera ma dernière question et vous avez un petit peu moins de 3 minutes. Elle est pourtant importante, cette question, c'est celle de la transgression. Et j'ai devant moi un ouvrage publié par les PUF, Scandale, Transgression, Scandale ou Nécessité, sous la direction de Muriel Flistrev et René Friedman. C'est un ouvrage issu d'un colloque avec de très très nombreux intervenants. Alors sur cette question, la transgression qui passe aussi par la consommation d'alcool et qui est aussi une étape. Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas trop diaboliser et noircir le tableau. Hein, d'abord, on parlait de l'Islande, des politiques sportives, des politiques associatives, des politiques culturelles sont des choses qui se développent aussi en France. On a des programmes qui se développent notamment dans les DOM-TOM actuellement pour lutter contre l'obésité et la sédentarité et les addictions autour du sport santé. C'est vrai que le sport santé est en train de monter actuellement dans nos politiques publiques. Alors ça peut correspondre pour certains jeunes à de la transgression, à une montée d'adrénaline et tout.
À se dépasser.
Il faut quand même rappeler qu'on a à peu près la moitié de nos jeunes générations qui n'ont pas de comportement d'excès avec l'alcool. Et donc là, des choses sont faites pour ces jeunes-là, mais on a aussi des jeunes qui vont aller plus loin en termes d'excitation, de recherche de nouveautés, de défis, de besoin de se désinhiber. Donc moi, je noircirai pas le tableau, mais par contre, c'est vrai que le besoin de se désinhiber, de sortir du quotidien, est fortement lié, pour moi, en France, à une pression scolaire. La pression du diplôme, la pression de l'école, tous les travaux qu'on fait sur le mal-être des jeunes, la souffrance psychique, on retrouve très fréquemment le facteur vie scolaire, pression scolaire. On a ensuite une pression sociale, sur l'accès à l'emploi, sur la crise, sur l'économie, etc. On a aussi des vies familiales qui ont évolué et qui font qu'il y a peut-être moins d'accompagnement des jeunes, de supervision, d'interaction entre parents et jeunes. Donc moi, je mettrais plutôt la focale sur le fonctionnement de notre société que sur la recherche d'adrénaline et de transgression chez nos jeunes. Et il y a un point qui est très important par rapport à ce que vous venez discuter précédemment, c'est la question du paradoxe de nos politiques publiques. C'est-à-dire que là, on parle de Reykjavik, enfin de l'Islande, où on peut citer plein de pays où on avance de façon pragmatique et cohérente. Bon, ce qui va caractériser la France, c'est qu'on n'avance pas de façon cohérente. C'est-à-dire on a d'un côté, je dirais avec mes mots, des ayatollahs de la santé et de la non-consommation. On a fait baisser récemment les seuils de consommation préconisés en disant il faut boire moins de 10 unités d'alcool par semaine avec au moins 2 jours sans consommation. Donc ce sont des normes de consommation minimalistes et qui ne correspondent pas forcément à la réalité vécue chez les jeunes et qui ne font plus la différence en plus entre les consommations des garçons et les consommations des filles. Donc d'un côté, des messages de santé qui sont rigoureux, très rigoureux. La loi Evin était rigoureuse dans les années 90. Et puis de l'autre côté, une vie sociale, le développement du marketing urbain entre les villes pour qu'il y ait des festivals, des fêtes, des concerts, etc. Et une économie de l'alcool qui génère, au bas mot, dans les 20 milliards d'euros par an. Et donc, on demande à nos adolescents et à nos jeunes, notamment ceux qui sont les plus à risque, parfois on généralise parce que tous ne sont pas à risque, peut-être que c'est 10 à 15% qui sont à risque, mais on demande à ces jeunes de gérer un paradoxe qui n'est pas un paradoxe simplement psychique de construction de soi, de volonté de découvrir, de s'initier, de transgresser, mais on leur demande de gérer un paradoxe qui est construit par nos incohérences institutionnelles et économiques.
Un sujet auquel il faudra bien continuer de réfléchir, qui est aussi un sujet, on l'a entendu ce soir, d'éducation. Merci beaucoup à mes invités. Toutes les références citées dans cette émission sont à la page de d'Être et Savoir sur le site de France Culture. Et je prends juste une minute pour vous parler de deux sujets et des podcasts d'Être et Savoir qu'on retrouve sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Notre thème de la semaine dernière, la vie bouleversée des étudiants au temps du Covid, continue de faire la une. Notre émission du 4 janvier est donc toujours d'actualité. On y parle beaucoup de santé mentale, je le dis parce qu'il y a eu des cas de suicide tout récent d'étudiants. Donc vous pouvez retrouver cette émission sur le site. J'ajoute que le gouvernement se penche sur la situation des jeunes précaires, des jeunes au chômage aussi, et que sera discuté demain à l'Assemblée. La garantie jeune, c'est un débat, garantie jeune ou extension du RSA, c'est à suivre donc dans les débats de l'Assemblée nationale. Et puis, vous avez sans doute entendu parler du livre de Camille Kouchner et d'une certaine, une réelle indifférence de l'entourage d'Olivier Duhamel, même après que ses agissements ont été révélés. Hier, on apprenait que le plasticien Claude Lévesque était visé par une enquête pour viol sur mineur. L'affaire semble très grave. Alors, la pédocriminalité, on en a parlé dans une émission de l'année dernière. Cette actualité peut et doit engager parents et éducateurs à aborder ce sujet et surtout à développer leur écoute. J'avais très envie de le dire ce soir et aussi que l'année dernière, à la suite de cette émission organisée à l'occasion de la parution du livre Le consentement de Vanessa Springora, nous avions donné des références, des ressources, presse et livres jeunesse et des conseils pour parler avec les enfants, des conseils aussi d'approche et de termes pertinents en fonction de leur âge. Et puis je vous donne rapidement le sujet de la question du jour de Guillaume Erner demain. Pourquoi l'affaire Duhamel plonge sans Sciences Po dans la tourmente? Guillaume Erner recevra Jérôme Le Filiatre, grand reporter au quotidien Libération.